Alors, on va en débattre dans le Face à Duhamel avec ce soir Tuc Duhal-Denis, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel. On vient d'écouter Madame Le Pen. Franchement, Alain Duhamel, compte-t-elle encore, alors?
Je ne vais pas vous dire qu'elle ne compte plus, ça serait ridicule. Mais je pense qu'elle a commis une grosse faute et je pense qu'elle n'est pas dans une bonne phase. Elle a commis une grosse faute parce que, d'abord, c'est elle qui a porté le dernier coup. La censure, c'est elle. De toute, les insoumis, leurs partenaires, les socialistes, les écologistes, de toute façon, ils votaient la censure jusqu'à présent automatiquement. Celle qui a fait la différence, c'est elle. En plus, elle ne l'a pas fait n'importe comment. C'est-à-dire qu'elle a commencé par retourner sur le grill jour après jour le malheureux Michel Barnier en extorquant à chaque fois quelque chose de plus. Puis, au dernier moment, elle a planté le couteau. Je suis pas sûr que ça soit l'attitude la plus sympathique en règle générale, ni forcément la mieux reçue, y compris par une partie des électeurs de son camp. Et je crois que c'est une mauvaise phase parce que elle perd en respectabilité, ce qui est quand même un de ses grands objectifs pour arriver à la présidence, que le fait qu'elle ait porté aussi visiblement et aussi personnellement le dernier coup, ça lui rend beaucoup plus difficile de faire la même chose la prochaine fois avec un nouveau Premier ministre. Parce que si elle le faisait deux fois de suite, on dirait c'est de l'acharnement et elle organise la pagaille. Et ça serait pas bon pour elle, puisqu'elle est dans un parti d'électeurs qui aiment l'ordre quand même et pas la pagaille du tout. Et puis derrière ça, il y a le 31 mars, son échéance judiciaire, donc c'est une phase difficile. Alors que je remarque au passage que pendant ce même temps, Jordan Bardella n'a pas commis d'erreur.
Écoutez, je suis pas du tout d'accord avec
tant mieux.
Alain Duhamel. Effectivement, moi je pense que la situation politique n'a absolument pas changé depuis la motion de censure. Je pense que le Rassemblement National est tout aussi central et tout aussi pivot qu'avant. Je pense que Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix que de nommer à une sorte de nouveau Michel Barnier, c'est-à-dire quelqu'un de centre-droit, de macroniste peut-être comme pur jus, comme Sébastien Lecornu, mais en tout cas quelqu'un qui de toute façon aura comme fiche de mission de à la fois rassembler les macronistes et les républicains et de pas fâcher Marine Le Pen, qui a toujours le droit de vie ou de mort sur la vie politique. Je pensais comme vous, Alain Duhamel, avant la motion de censure, que Marine Le Pen prenait le risque de perdre tout le crédit qu'elle avait jusque-là cumulé, qu'elle prenait le risque de rentrer dans le trou noir, pour reprendre une formule d'un éditorial du Figaro juste avant cette motion de censure. Mais force est de constater que dès le lendemain de cette motion de censure, on a vu des partis tripatouillés entre eux, c'est-à-dire que tout d'un coup on a vu Marine Tondelier, qui n'avait pas d'accent assez radicaux jusque-là, faire des appels du pied à Emmanuel Macron, de dire Marine Tondelier disant qu'elle pouvait très bien se trouver dans la même pièce que Laurent Wauquiez ou Édouard Philippe pour essayer de voir quelle était la voie du consensus. Et pour moi, Marine Le Pen, elle, au contraire, apparaît comme un espèce de pôle de stabilité et de clarté, et en plus, à la différence de la France Insoumise qui, elle, on pourrait dire aussi, échappe au tripatouillage, mais elle ne se fait pas fracturer. Parce que pendant ce temps-là, en revanche, lui, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, enfonce un coin dans sa coalition.
Je trouve qu'il y a une contradiction dans ce que vous venez de dire, dans la mesure où d'un côté, vous dites, il n'y a rien de changé pour elle. Elle est toujours le rocher au milieu de la politique avec des gens qui, autour d'elle, s'agitent. Mais vous avez dit immédiatement après, oui, mais dès le lendemain, les écologistes ont pensé qu'il fallait changer ceci. Ensuite, d'autres, les socialistes se sont avancés en disant il faut modifier. On a bien vu que dès le lendemain, contrairement à ce qui s'était passé après les élections législatives et européennes, on a bien vu que dès le lendemain, les différentes forces politiques étaient obligées de s'adapter à une situation nouvelle.
Mais c'est très mauvais.
Alors, je ne dis pas, d'une part, que les contradictions parlementaires plaisent à tout le monde, je ne dis pas ça. Mais le lendemain de la censure mise en œuvre par Marine Le Pen, les autres forces politiques représentées ont toutes été obligées de réagir et de modifier leur comportement, même Jean-Luc Mélenchon, qui immédiatement s'est présenté comme agressé par ses propres alliés. Autrement dit, ses alliés faisaient un pas de côté, lui se sentait agressé. Du côté de ce qu'on appelle le bloc central, tout le monde se disait « oui, mais maintenant, il faut élaborer d'autres règles du jeu », c'est-à-dire, en gros, l'idée « pas de censure, pas de 49-3 ». Et les LR disaient « ben oui, pas de 39, pas de 49-3 », etc. Oui. Autrement dit, au lendemain de la censure, tous les acteurs politiques ont changé leur jeu, donc ça n'est pas du tout un épiphénomène, et ça n'est pas à l'avantage de Marine Le Pen dans cette histoire-là.
Moi, je pense que tous les partis politiques que vous venez de décrire et de citer, ils commettent tous la même erreur, que Marine Le Pen ne se fait pas fracturer comme Jean-Luc Mélenchon, parce que effectivement, elle aurait été mise en difficulté si, par exemple, Éric Ciotti, qui est son seul allié, avait dit « bah attendez, moi aussi, je me pose à la table des négociations
». Je suis pas sûr qu'il était emballé par la censure, soit dit en
passant. Il l'a voté, en tout cas.
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il était emballé.
Pour moi, il n'y a que deux solutions. Soit on fait un gouvernement d'intérêt national, comme dit Emmanuel Macron, mais le seul gouvernement d'intérêt national qui soit pour moi crédible, c'est celui décrit par le ministre démissionnaire macroniste Guillaume Kasbarian, c'est-à-dire allons jusqu'au Rassemblement National, parce que sinon c'est pas de l'intérêt national, c'est un arc républicain autodéterminé par ceux.
Du coup, pourrait aider d'ailleurs Marine Le Pen à apparaître comme la seule opposante.
Exactement.
Ça n'a jamais existé en France, sauf à deux reprises pendant la guerre de 14-18.
Oui, là, n'a jamais existé.
Et à la Libération.
Exactement. Un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement d'union. Dans l'union nationale, il y a union. Il y a pas, on décide qui a le droit d'être dans l'union ou pas, ou qui a le droit d'être dans l'arc républicain ou pas. Et donc soit on fait ça, mais effectivement c'est pas sur ce chemin-là qu'on s'engage, soit on fait un gouvernement qui penche d'un côté ou de l'autre. Moi, ça ne me choquerait pas que toute la gauche essaye de voir avec Emmanuel Macron et l'aile gauche de la Macronie comment on pourrait faire une sorte de Barnier de gauche qui fasse consensus. Ou alors on refait, et je fais le pari avec vous aujourd'hui que c'est ce qui va se passer.
Je ne parie jamais.
Écoutez, alors je parierai tout seul avec moi-même, mais que va y avoir un gouvernement de centre droit dirigé par Catherine, par Catherine Vautrin. Mais parce que c'est la seule chose, si vous regardez arithmétiquement
et qui tombera
au bout de 3 mois, et de toute façon, rien ne sera stable tant qu'il n'y aura pas de dissolution. Mais je crois vraiment fondamentalement, si vous voulez, que ce front républicain, ou à l'inverse, déterminé par Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution présidentielle, comme le front désormais anti-républicain en désignant la France insoumise ou le Rassemblement national, tout cela est une forme de moralisation de la vie politique par des gens qui déterminent qui a le droit d'être dans l'arc, qui a le droit qui n'a pas le droit d'être dans l'arc, qui est dans le front anti-républicain, qui est dans le front républicain, ça n'a aucun sens.
L'actualité politique cet après-midi, c'était quand même cette réunion où une vingtaine de personnes se sont retrouvées autour d'Emmanuel Macron, de la gauche et de la droite. Les Insoumis n'étaient pas invités, ni Marine Le Pen. Finalement, cette réunion, et c'est ce que dit la gauche, n'a pas servi à grand-chose. Laurent Wauquiez dit à peu près la même chose. Les macronistes, on les a pas entendus. Ils ont fui les caméras.
J'ai cru comprendre qu'Olivier Faure ne disait pas exactement
Olivier Faure, avait l'air le plus optimiste. Néanmoins,
il y a donc quelqu'un de gauche qui trouve que ça a servi à quelque chose.
Sauf que ce soir, on ne sait toujours pas qui sera Premier ministre. Et d'ailleurs, ils sont tous à dire, maintenant, on attend de savoir. Donc, en fait, ça donne raison à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui disaient, ça ne sert à rien, cette réunion.
Mais non, pas forcément. Ça dépend si, maintenant, avec un autre gouvernement, il y a un peu plus de stabilité. Il y a des facteurs qui vont dans ce sens-là.
On nous a dit que Barnier, ça serait stabilité.
On a dit, moi, je
ici dire, même.
Pas moi, en tout cas.
On disait que Michel Barnier, c'était finalement le bon choix pour tenir le plus longtemps possible.
Franchement, vous m'avez entendu dire que c'était le bon choix.
Non, mais c'était pas un mauvais choix, en tout cas.
Vous m'avez entendu dire que c'était le bon choix.
Non, pas un mauvais choix. Non, vous n'êtes pas fan de Michel Barnier, j'ai bien compris.
Je sais pas, contre lui, mais c'était contre la capacité qu'il avait à remplir réellement la tâche qu'on lui donnait, et qui était d'ailleurs extraordinairement difficile, et qui sera de même extraordinairement difficile pour le prochain ou la prochaine Première ministre, on verra bien. Mais je pense que ce qui va se passer ne sera pas identique à ce qui s'est passé. Je pense que ce qui va se passer dans les 3 mois sera différent. D'abord parce que on est à un moment où, de toute façon, il faut qu'on trouve les ressources budgétaires. Alors, on va voter probablement lundi prochain et assez aisément la loi spéciale qui maintient le minimum vital. Mais à partir de début janvier, la question sera de savoir quel est le vrai budget qu'on fait pour 2025. Ça n'est pas la même situation que ce qui vient de se passer. Et qui sera prêt réellement à jouer le jeu. Est-ce que à l'issue de ce qui s'est passé aujourd'hui, moi j'y vois deux choses. J'y vois d'une part, il y a quand même plusieurs des forces qui considèrent qu'il faut vraiment trouver un système pour tâcher d'éviter les 49-3 et les motions de censure. Je pense que, je ne sais pas s'ils y arriveront, évidemment, mais ils essaieront, et je pense que c'est une idée qui sera plutôt populaire que impopulaire. S'il y a moins de 49-3 et moins de censure. Donc, ça veut dire en clair plus de stabilité.
Oui, mais si c'est pour augmenter le prix de l'électricité, je suis pas sûr que ce soit très populaire.
Ben, c'est pas, là, vous êtes en train de fabriquer vous-même votre propre budget 2025.
Ah ben, c'était dans le budget 2025 de Michel Barnier. Et oui, finalement, il l'avait retiré au dernier moment.
Alors, un, ça a été retiré, donc vous pouvez pas dire que ça va s'appliquer. Et deux, le prochain premier, ou la prochaine première ministre, n'est pas du tout engagée par ce qu'avait dit Michel Barnier. Pas
sauf
du tout.
Que la situation,
mais la différence,
la situation va être
c'est
difficile
que,
quand même.
Bien sûr.
Économique et budgétaire.
Non, mais la situation ne va pas être difficile. La situation est déjà, attendez que j'ai fini ma phrase, extraordinairement difficile. Elle va devenir encore plus difficile, bien
donc
entendu.
Donc elle risque de rendre impopulaire la personne qui sera à Matignon.
C'est très possible que de devenir premier ou première ministre dans 48 heures, si c'est vraiment dans 48 heures, c'est très possible que ça soit une mission de sacrifice. C'est très possible.
D'autant.
Mais c'est très possible aussi que ça puisse ensuite tenir jusqu'en juin, c'est-à-dire à un moment où il y a d'autres moyens d'agir.
Sauf que ce soir, du côté de la présidence de la République, c'est ce que disent nos confrères de l'agence de presse Reuters, le président Macron dit son souhait de ne pas dissoudre l'Assemblée nationale dans les 30 mois qui le séparent de la fin de son mandat. Ce qui veut dire que potentiellement, si on se fie à cette information venue de l'entourage, il n'y aura pas de nouvelle dissolution au mois de juin.
On reste avec cette Assemblée.
Ni jusqu'en 2027.
Ça, je crois absolument pas que ce soit possible. La pression va être considérable sur les épaules d'Emmanuel Macron pour organiser des nouvelles élections législatives l'été prochain, et c'est son seul moyen d'échapper à la démission de toute façon. Donc on lui demande de choisir entre un rhume et la peste, je pense qu'il choisira quand même le rhume, de pouvoir finir son mandat.
Mais c'est pas une garantie donnée aux socialistes, parce que les socialistes, ils ont peur de se détacher la France insoumise, car s'il y a des élections législatives, l'accord de la gauche au premier tour est essentiel lorsqu'il y a un problème. Est-ce que c'est pas une garantie donnée à Olivier Faure?
Non, mais sauf que mais arithmétiquement, il y a aussi le Rassemblement National en France qui pèse 30% des voix, et elle va lui mettre une pression monstre sur les épaules. Et les Républicains, je pense, voudront une dissolution aussi. Et je suis pas sûr que le Bloc central s'accommode.
Le Républicain, c'est pas. En tout cas, ils ne l'ont jamais dit.
Ils
ne l'ont jamais dit.
Vous avez Jean-François Copé qui appelle à la démission d'Emmanuel Macron.
Je n'entends pas.
Tu dois aller, Alain, en laissant fuiter cette information du côté entourage présidentiel, c'est mettre la pression aussi pour dire entendez-vous, moi je ne bougerai pas.
Évidemment, parce qu'il dit qu'il ne bougerait pas. On verra bien, on n'en sait rien et il ne le sait pas. Mais effectivement, c'est un moyen de mettre la pression, c'est parfaitement clair. Là, je pense qu'on entre dans une phase pendant laquelle les règles du jeu seront différentes de ce qu'on vient de connaître. Elles ne seront pas à l'opposé, elles seront différentes. Si effectivement il y a un effort des forces de gouvernement en y intégrant les socialistes pour qu'il n'y ait ni censure, ni 49-3, ça sera un changement. Et comme je le disais, Marine Le Pen a ses propres échéances. Alors quand Emmanuel Macron dit « j'ai pas du tout l'intention de dissoudre », il a pas du tout l'intention de dissoudre aujourd'hui, évidemment, puisqu'il ne le peut pas. Mais une fois qu'il le pourra, est-ce qu'il aura intérêt à dissoudre ou pas? Ou est-ce qu'il sera obligé par les circonstances politiques à dissoudre ou pas? Donc c'est très intéressant qu'il ait dit ça, mais ça ne l'engage pas du tout pour la suite.
Revenons à quand même, dans 48 heures, un nouveau Premier ministre. C'est quand même ça. Vous pensez à Ségolène Royal, Alain?
Non.
Moi, je pense qu'Emmanuel Macron...
Je suis désolé pour elle, mais non.
je pense qu'Emmanuel Macron joue avec les nerfs et surtout un peu la crédulité de la gauche en les recevant, en les laissant entrevoir...
C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon.
En les laissant entrevoir, effectivement, que pourrait ne pas y avoir de dissolution, comme vous venez de le révéler, et en les appâtant de cette manière. Sauf que Emmanuel Macron ne veut pas qu'on touche à sa réforme des retraites. Emmanuel Macron ne veut pas qu'on détricote la partie positive de son bilan économique. Emmanuel Macron ne veut pas perdre certains ministres de droite qui partiraient illico presto s'il y avait le moindre allié des insoumis dans ce gouvernement. Et que donc, la gauche... est complètement fasciné et déformé dans son jugement en tout d'un coup en participant à des négociations, mais elle sortira cocu de ces négociations comme elle est sortie cocu de son rendez-vous avec Lucie Castel l'été dernier.
La gauche est plus désunie aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a encore une semaine, et on ne peut pas dire le contraire.
Oui, mais ça, c'est une victoire d'Emmanuel Macron.
Ben, c'est ce que je dis.
Mais Emmanuel Macron gagne, la gauche va perdre et l'unité et les postes.
J'ai dit la gauche, je n'ai pas encore parlé de la droite. Alors, si vous permettez, donc, la gauche est plus désunie. La droite, le LR, n'a absolument pas envie d'une dissolution. Marine Le Pen, si de nouveau c'est elle qui porte la censure, encore faut-il que les socialistes acceptent de répéter la censure qu'ils ont faite et qui a permis, elle aussi, de mettre fin aux fonctions de Michel Barnier. Donc, en réalité, personne n'a les mains libres. Et moi, ce qui me frappe le plus dans cette journée, c'est à quel point maintenant on entendait tous les protagonistes qui étaient, assistaient à la réunion et même des échos du côté du Rassemblement National, pour dire maintenant c'est aux parlementaires de régler le problème entre eux et notamment sur les questions
donc
de programme.
Donc ça ne devrait pas aller être à l'Élysée.
Et pas à l'Élysée. Et ça, c'est aussi des facteurs nouveaux.
Enfin, donc, aujourd'hui, c'était à l'Élysée, non, c'est
mais,
paradoxe.
Oui, mais aujourd'hui, il n'était question que de méthode, il n'était pas question de programme. Mais tous ceux qui se sont exprimés disaient il faut qu'on discute entre nous, entre députés et au Parlement. Et ça aussi, c'est un fait nouveau. Autrement dit, votre thèse selon laquelle rien n'avait changé de fondamental, si les choses bougent.
Merci Tugdual Denis, merci Alain Duhamel.